Chapitre 4. Plus de maître, plus de maîtresse, les adieux de Barnave. Avant de suivre Gilbert dans cet hôpital du Gros Caillou, où le réclament les soins à donner à ce blessé inconnu recommandé par Cagliostro, jetons un dernier coup d'œil sur l'assemblée qui va se dissoudre après l'acceptation de cette constitution à laquelle est suspendue la non-déchéance du roi, et voyons quel parti la cour tirera de cette fatale victoire du 17 juillet qui, 2 ans plus tard, coûtera la tête à Bailly. Puis nous reviendrons aux héros de cette histoire que nous avons un peu perdu de vue, emportés qu'ils sont par la tourmente politique qui nous force de mettre sous les yeux des lecteurs ces grands troubles de la rue où les individus disparaissent pour faire place aux masses. Nous avons vu le danger couru par Robespierre et nous savons comment, grâce à l'intervention du menuisier Duplay, il a échappé au triomphe peut-être mortel qui allait être déféré à sa popularité. Tandis qu'il soupe en famille dans une petite salle à manger donnant sur la cour avec le mari, la femme et les 2 filles, ses amis, instruits du péril auquel il a été exposé, s'inquiètent pour lui. Madame Roland surtout, créature dévouée, elle oublie qu'elle a été vue et reconnue sur l'autel de la patrie et qu'elle court le même risque que les autres. Elle commence par recueillir chez elle Robert et Mademoiselle de Keralio. Et puis, comme on lui dit que l'Assemblée doit, cette même nuit, dresser un acte d'accusation contre Robespierre, elle va, pour prévenir celui-ci, au fond du marais, et, ne le trouvant pas, elle revient chez les théatins, chez Buzot. Buzot est un des admirateurs de Madame Roland. Elle sait toute l'influence qu'elle a sur Buzot, c'est pour cela qu'elle s'adresse à lui. Buzot fait immédiatement passer un mot à Grégoire. Si l'on attaque Robespierre au Feuillant, Grégoire le défendra au Feuillant. Si l'on attaque Robespierre à l'Assemblée, lui, Buzot, défendra Robespierre à l'Assemblée. C'est d'autant plus méritoire de sa part qu'il n'adore pas Robespierre. Grégoire alla au Feuillant et Buzot à l'Assemblée. Il ne fut pas question d'accuser Robespierre ni aucun autre. Députés et Feuillants étaient épouvantés de leur propre victoire, consternés du pas sanglant qu'ils avaient fait au profit des royalistes. À défaut d'accusation contre les hommes, on en porta contre les clubs. Un membre de l'Assemblée demanda leur fermeture immédiate. On crut un instant qu'il allait y avoir unanimité pour cette mesure. Mais Duport, mais Lafayette réclamèrent. Fermer les clubs, c'était fermer les Feuillants. Lafayette et Duport n'étaient point encore désillusionnés sur la force que cette arme mettait entre leurs mains. Ils croyaient que les Feuillants remplaceraient les Jacobins et que, par l'immense machine, ils dirigeraient l'esprit de la France. Le lendemain, l'Assemblée reçut le double rapport du maire de Paris et du commandant de la garde nationale. Tout le monde avait intérêt à se tromper. La comédie fut facile à jouer. Le commandant et le maire parlèrent de l'immense désordre qu'il leur avait fallu comprimer, de la pendaison du matin et des coups de feu du soir, de choses qui n'avaient aucune corrélation, du danger qui avait menacé le roi, l'Assemblée, la société tout entière, danger qu'ils savaient mieux que personne n'avoir jamais existé. L'Assemblée les remercia d'une énergie qu'ils n'avaient jamais eu l'idée de déployer, les félicita d'une victoire que chacun d'eux déplorait au fond du cœur, et rendit grâce au ciel qui avait permis que l'on anéantît d'un seul coup l'insurrection et les insurgés. À entendre les félicités et les félicitants, la révolution était terminée. La révolution commençait. Pendant ce temps, les anciens jacobins, jugeant du lendemain par la veille, se croyaient attaqués, poursuivis, traqués, et se préparaient à se faire pardonner leur importance réelle à force de feinte humilité. Robespierre, encore tout tremblant d'avoir été proposé pour roi à la place de Louis XVI, rédigea une adresse au nom des présents et des absents. Dans cette adresse, il remerciait l'Assemblée de ses efforts généreux, de sa sagesse, de sa fermeté, de sa vigilance, de sa justice impartiale et incorruptible. Comment les Feuillants n'auraient-ils pas repris courage et ne se seraient-ils pas crus tout-puissants en voyant cette humilité de leurs ennemis? Un instant, ils se crurent non seulement les maîtres de Paris, mais encore les maîtres de la France. Hélas, les Feuillants n'avaient point compris la situation. En se séparant des Jacobins, ils avaient fait tout simplement une seconde assemblée, doublure de la première. La similitude entre les deux compagnies était telle que, au Feuillant, comme à la Chambre, on n'entrait qu'en payant contribution, qu'à la condition d'être citoyen actif, électeur des électeurs. Le peuple avait deux chambres bourgeoises au lieu d'une. Ce n'était point cela qu'il voulait. Il voulait une chambre populaire qui fût, non pas l'allié, mais l'ennemi de l'Assemblée nationale, qui n'aida point celle-ci à reconstituer la royauté, mais qui la força de la détruire. Les Feuillants ne répondaient donc aucunement à l'esprit public. Aussi le public les abandonna dans ce court trajet qu'ils venaient de faire. Leur popularité se perdit en traversant la rue. En juillet, la province comptait 400 sociétés. Sur ces 400 sociétés, 300 correspondaient également avec les Feuillants et les Jacobins, 100 avec les Jacobins seuls. De juillet à septembre, il se créa 600 autres sociétés dont pas une ne correspondait avec les Feuillants, et au fur et à mesure que les Feuillants s'affaiblissaient, les Jacobins se reconstituaient sous la main de Robespierre. Robespierre commençait à être l'homme le plus populaire de France. Cette prédiction de Cagliostro à Gilbert s'accomplissait à l'endroit du petit avocat d'Arras. Peut-être le verrons-nous s'accomplir aussi fidèlement à l'endroit du petit Corse d'Ajaccio. En attendant, l'heure qui devait voir la fin de l'Assemblée nationale sonnait. Elle sonnait lentement, c'est vrai, comme pour ces vieillards chez lesquels la vie s'éteint et se consume goutte à goutte. Après avoir voté 3000 lois, l'Assemblée venait d'achever enfin la révision de la Constitution. Cette Constitution, c'était une cage de fer dans laquelle, presque malgré elle, presque à son insu, elle avait enfermé le roi. Elle avait doré les barreaux de la cage, mais au bout du compte, tout dorés qu'ils étaient, les barreaux ne dissimulaient point la prison. En effet, la volonté royale était devenue impuissante. C'était une roue qui recevait le mouvement au lieu de l'imprimer. Toute la résistance de Louis XVI était dans son veto, qui, pour 3 ans, suspendait l'exécution des décrets rendus si ces décrets ne convenaient pas au roi. Alors la roue cessait de tourner et, par son immobilité, arrêtait toute la machine. À part cette force d'inertie, la royauté de Louis XIV et de Henri IV, toute d'initiative sous ces deux grands rois, n'était plus qu'une majestueuse inutilité. Cependant, le jour où le roi devait jurer la Constitution approchait. L'Angleterre et les émigrés écrivaient au roi « Périssez s'il le faut, mais ne vous avilissez pas en jurant ». Léopold et Barnave disaient « Jurez toujours, tiendra qui pourra ». Enfin, le roi décida la question par cette phrase « Je déclare que je ne vois point dans la Constitution des moyens suffisants d'action et d'unité. Mais puisque les opinions sont diverses sur ce sujet, je consens que l'expérience en demeure seul juge. » Restait à savoir dans quel lieu la Constitution serait présentée à l'acceptation du roi, aux Tuileries ou à l'Assemblée. Le roi trancha la difficulté en annonçant qu'il jurerait la Constitution là où elle avait été votée. Le jour fixé par le roi était le 13 septembre. L'Assemblée reçut cette communication avec des applaudissements unanimes. Le roi venait à elle. Dans un élan d'enthousiasme, Lafayette se leva et demanda une amnistie universelle pour ceux qui étaient accusés d'avoir favorisé la fuite du roi. L'Assemblée vota l'amnistie par acclamation. Ce nuage qui un instant avait assombri le ciel de Charny et d'André se dissipa donc aussitôt que formé. Une députation de 60 membres fut nommée pour remercier le roi de sa lettre. Le garde des Sceaux se leva et courut annoncer au roi cette députation. Le matin même, un décret avait aboli l'ordre du Saint-Esprit, autorisant le roi seul à porter ce cordon, emblème de la haute aristocratie. La députation trouva le roi décoré de la seule croix de Saint-Louis, et comme Louis XVI s'aperçut de l'effet que produisait sur les députés l'absence du cordon bleu, « Messieurs, dit-il, vous avez aboli ce matin l'ordre du Saint-Esprit en le conservant pour moi seul. mais un ordre quel qu'il soit, n'ayant à mes yeux d'autre prix que celui de pouvoir être communiqué, à partir d'aujourd'hui, je le tiens pour aboli pour moi aussi bien que pour les autres. » La reine, le dauphin et Madame Royale se tenaient debout près de la porte. La reine pâle, les dents serrées, toutes les fibres frémissantes. Madame Royale, déjà passionnée, violente, hautaine, impressionnée des humiliations passées, présentes et futures. Le dauphin, insoucieux comme un enfant. Seul, il semblait, par son sourire et le mouvement qu'il se donnait, un personnage vivant dans un groupe de marbre. Quant au roi, quelques jours auparavant, il avait dit à monsieur de Montmorin « Je sais bien que je suis perdu, tout se contentera désormais en faveur de la royauté qu'on le tente pour mon fils. » Louis XVI répondit avec une sincérité apparente au discours de la députation. Puis, lorsqu'il eut fini, se tournant vers la reine et la famille royale, « Voilà, dit-il, ma femme et mes enfants qui partagent tous mes sentiments. » Oui, femmes et enfants les partageaient, car lorsque la députation se fut retirée, que le roi l'eut suivi d'un regard inquiet, la reine d'un regard haineux, les deux époux se rapprochèrent, et Marie-Antoinette, posant sa main blanche et froide comme du marbre sur le bras du roi, « Ces gens-là, dit-elle en secouant la tête, ne veulent plus de souverain. Ils démolissent la monarchie, pierre par pierre, et de ces pierres, ils nous font un tombeau. » Elle se trompait, pauvre femme. Ensevelie dans la bière des pauvres, elle ne devait même pas avoir un tombeau. Mais la chose sur laquelle elle ne se trompait pas, c'était ses atteintes de tous les jours à la prérogative royale. Monsieur de Malouet était président de l'Assemblée. C'était un royaliste pur sang. Cependant, il se crut obligé de mettre en délibération si l'Assemblée resterait debout ou assise, tandis que le roi prononcerait son serment. « Assise, assise » cria-t-on de toutes parts. « Et le roi ?» demanda monsieur de Malouet. « Debout et tête nue !» cria une voix. L'Assemblée entière tressaillit. Cette voix était isolée, mais nette, forte, vibrante. Elle semblait la voix du peuple, qui ne se fait entendre solitaire que pour mieux être entendu. Le président pâlit. Qui avait prononcé ces paroles? Était-elle partie de la salle ou des tribunes? N'importe, elles avaient une telle puissance que le président fut forcé d'y répondre. « Messieurs, dit-il, il n'y a point de circonstance où la nation assemblée en présence du roi ne le reconnaisse pour son chef. » Si le roi prête serment debout, je demande que l'assemblée l'écoute dans la même attitude. Alors la même voix se fit entendre. J'ai, dit-elle, à proposer un amendement qui mettra tout le monde d'accord. Décrétons qu'il sera permis à monsieur de Malouet et à quiconque préférera cette posture d'écouter le roi à genoux. Mais maintenant la proposition. La proposition fut écartée. C'était le lendemain de cette discussion que le roi devait prêter serment. La salle était comble, les tribunes regorgeaient de spectateurs. À midi, on annonça le roi. Le roi parla debout, l'assemblée l'écouta debout. Et puis, le discours prononcé, on signa l'acte constitutionnel et tout le monde s'assit. Alors le président, c'était Touré, se leva pour prononcer son discours. Mais après les deux ou trois premières phrases, voyant que le roi ne se levait point, il s'assit lui-même. Cette action provoqua les applaudissements des tribunes. À ces applaudissements, plusieurs fois répétés, le roi ne put s'empêcher de pâlir. Il tira son mouchoir de sa poche et essuya la sueur qui ruisselait de son front. La reine assistait à la séance dans une loge particulière. Elle ne put en supporter davantage. Elle se leva, sortit, fermant violemment la porte et se fit ramener aux Tuileries. Elle rentra sans dire un mot, même à ses plus intimes. Depuis que Charny n'était plus près d'elle, son cœur absorbait le fiel, mais ne le rendait pas. Le roi rentra une demi-heure après elle. « La reine ? » demanda-t-il aussitôt. On lui indiqua où elle l'était. Un huissier voulait marcher devant lui, il l'écarta d'un signe, ouvrit les portes lui-même et apparut tout à coup sur le seuil de la chambre où se trouvait la reine. Il était si pâle, si défait, la sueur coulait en si larges gouttes de son front que la reine, en l'apercevant, se leva tout debout et poussa un cri. « Oh, sire, dit-elle, qu'est-il donc arrivé ?» Le roi, sans répondre, se jeta dans un fauteuil et éclata en sanglots. « Oh, madame, madame, s'écria-t-il, pourquoi avez-vous assisté à cette séance? Fallait-il que vous fussiez témoin de mon humiliation? Est-ce donc pour cela que, sous prétexte d'être reine, je vous ai fait venir en France ?» Une pareille explosion de la part de Louis XVI était d'autant plus déchirante qu'elle était rare. La reine n'y put tenir, et courant au roi, elle se laissa tomber à genoux devant lui. En ce moment, le bruit d'une porte qu'on ouvrait la fit retourner. C'était Madame Campan qui entrait. La reine étendit les bras vers elle. Oh, « Laissez-nous, Campan, dit-elle, laissez-nous !» Madame Campan ne se trompa point au sentiment qui portait la reine à l'éloigner. Elle se retira respectueusement, mais debout derrière la porte, elle entendit longtemps les deux époux échangeant des phrases entrecoupées de sanglots. Enfin, les interlocuteurs se turent, les sanglots se calmèrent. Au bout d'une demi-heure, la porte se rouvrit, et la reine elle-même appela Madame Campan. « Campan, dit-elle, chargez-vous de remettre cette lettre à Monsieur de Malden. Elle est adressée à mon frère Léopold. Que Monsieur de Malden parte à l'instant pour Vienne. Il faut que cette lettre y arrive avant la nouvelle de ce qui s'est passé aujourd'hui. S'il a besoin de 200 ou 300 louis, donnez-les-lui, je vous les rendrai. » Madame Campan prit la lettre et sortit. 2 heures après, Monsieur de Malden partait pour Vienne. Ce qu'il y avait de pis dans tout cela, c'est qu'il fallait sourire, caresser, avoir l'air joyeux. Pendant tout le reste de la journée, les Tuileries furent remplies d'une foule prodigieuse. Le soir, la ville entière étincela d'illumination. On invita le roi et la reine à se promener aux Champs-Élysées en voiture, escortés par les aides de camp et les chefs de l'armée parisienne. À peine parurent-ils que les cris de « Vive le roi et vive la reine !» se firent entendre. Mais dans un intervalle où les cris s'éteignaient et où la voiture était arrêtée, « Ne les croyez pas, dit un homme du peuple à la mine farouche et qui se tenait les bras croisés près du marchepied. « Vive la nation !» La voiture se remit en marche au pas, mais l'homme du peuple appuya sa main sur la portière, marchant du même pas qu'elle, et chaque fois que le peuple criait « Vive le roi, vive la reine !» répétant de sa même voix stridente « Ne les croyez pas, vive la nation !» La reine rentra le cœur broyé de cet incessant coup de marteau qui frappait avec la périodicité de l'entêtement et de la haine. Des représentations s'organisèrent aux différents théâtres, d'abord à l'Opéra, puis à la Comédie-Française, puis aux Italiens. À l'Opéra et aux Français, on fit la salle, et le roi et la reine furent reçus par des acclamations unanimes. Mais lorsqu'on voulut prendre les mêmes précautions pour les Italiens, il n'était plus temps. Le parterre avait été loué en masse. On comprit qu'il n'en serait pas des Italiens comme de l'Opéra et des Français, et que, probablement, il y aurait du bruit le soir. La crainte se tourna en certitude quand on vit la façon dont le parterre était composé. Danton, Camille Desmoulins, Legendre, Santerre y occupaient les premières places. Au moment où la reine entrait dans la loge, les galeries essayèrent d'applaudir. Le parterre chuta. La reine plongea avec terreur son regard dans cette espèce de cratère béant devant elle. Elle vit, comme à travers une atmosphère de flammes, des yeux pleins de colère et de menaces. Elle ne connaissait aucun de ces hommes de vue, quelques-uns pas même de nom. « Que leur ai-je donc fait, mon Dieu ?» se demandait-elle, en cherchant à dissimuler son trouble sous un sourire. « Pourquoi me déteste-t-il ainsi ?» Tout à coup, son regard s'arrêta avec terreur sur un homme debout contre une des colonnes sur lesquelles reposait la galerie. Cet homme la regardait avec une effrayante fixité. C'était l'homme du château de Tavernet, l'homme du retour de Sèvres, l'homme du jardin des Tuileries. C'était l'homme aux paroles menaçantes, aux actions mystérieuses et terribles. Une fois les yeux de la reine arrêtés sur cet homme, ils ne purent plus s'en détourner. Il exerçait sur elle la fascination du serpent sur l'oiseau. Le spectacle commença. La reine fit un effort, rompit le charme, parvint à détourner la tête et à regarder sur la scène. On jouait les événements imprévus de Grétry. Mais quelque effort que fît Marie-Antoinette pour distraire sa pensée de l'homme mystérieux, malgré elle, et comme par l'effet d'une puissance magnétique plus forte que sa volonté, elle se retournait et dardait son regard effrayé dans cette seule et unique direction. Et l'homme était sans cesse à la même place, immobile, sardonique, railleur. C'était une obsession douloureuse, intime, fatale, quelque chose de semblable pendant la veille à ce qu'est le cauchemar pendant la nuit. Au reste, une sorte d'électricité flottait dans la salle. Ces deux colères suspendues ne pouvaient manquer de se heurter, comme au jour orageux doux, deux nuages arrivant des deux extrémités de l'horizon, et comme ces deux nuages se heurtant de dégager l'éclair, sinon la foudre. L'occasion se présenta enfin. Madame Dugazon, cette charmante femme qui a donné son nom à un emploi, avait un duo à chanter avec le ténor, et dans ce duo elle disait ses vers « Oh, comme j'aime ma maîtresse !» La vaillante créature s'élança sur le devant de la scène, leva les yeux et les bras vers la reine et jeta la fatale provocation. La reine comprit que là était la tempête. Elle se détourna épouvantée et ses yeux se portèrent involontairement sur l'homme de la colonne. Elle crut lui voir faire un signe de commandement auquel tout le parterre obéit. Et en effet, d'une seule voix, d'une voix terrible, le parterre cria « Plus de maître, plus de maîtresse, liberté !» Mais à ce cri, loges et galeries répondirent « Vive le roi, vive la reine, vive à jamais notre maître et notre maîtresse !»« Plus de maître, plus de maîtresse, liberté, liberté, liberté !» hurla une seconde fois le parterre. Puis cette double déclaration de guerre jetée et acceptée, la lutte commença. La reine poussa un cri de terreur et ferma les yeux. Elle ne se sentait plus la force de regarder ce démon qui semblait le roi du désordre, l'esprit de la destruction. Au même instant, les officiers de la garde nationale l'enveloppèrent, lui faisant un rempart de leur corps et l'entraînant hors de la salle. Mais dans les corridors, ce cri continua à la poursuivre. « Plus de maître, plus de maîtresse, plus de roi, plus de reine !» On la porta, évanouie dans sa voiture. Ce fut la dernière fois que la reine alla au spectacle. Le 30 septembre, l'Assemblée constituante, par l'organe de son président Touret, déclarait qu'elle avait rempli sa mission et terminait ses séances. Voici, en quelques lignes, le résultat de ses travaux qui avaient duré 2 ans et 4 mois. La désorganisation complète de la monarchie, l'organisation du pouvoir populaire, la destruction de tous les privilèges nobiliaires et ecclésiastiques, 1 200 000 000 d'assignats décrétés, l'hypothèque mise sur les biens nationaux, la liberté des cultes reconnue, les vœux monastiques abolis, les lettres de cachet détruites, l'égalité des charges publiques établie, les douanes intérieures supprimées, la garde nationale instituée, enfin la constitution votée et soumise à l'acceptation du roi. Il eût fallu avoir de bien tristes prévisions pour croire, roi ou reine de France, que l'on n'eût plus à craindre de l'assemblée qui allait se réunir que de celle qui venait de se dissoudre. Le 2 octobre, c'est-à-dire le surlendemain de la dissolution de la constituante, à l'heure où il avait l'habitude de voir la reine, Barnave était introduit non plus dans l'entresol de Madame Campan, mais dans la pièce que l'on appelait le grand cabinet. Le soir même du jour où le roi avait juré la constitution, Sentinelle, aide de camp de Lafayette, avait disparu de l'intérieur du château, et le roi n'était pas redevenu puissant, mais il était au moins redevenu libre. C'était une petite compensation à cette humiliation dont nous l'avons vu se plaindre si amèrement à la reine. Sans être reçu publiquement et avec l'apparat d'une audience solennelle, Barnave n'avait donc plus cette fois à être soumis aux précautions qu'avait jusqu'alors nécessité sa présence aux Tuileries. Il était très pâle et paraissait fort triste. Cette tristesse et cette pâleur frappèrent la reine. Elle le reçut debout, quoiqu'elle connût le respect qu'avait pour elle le jeune avocat, et qu'elle fût bien certaine qu'il ne ferait point, si elle s'asseyait, ce qu'avait fait le président Touret en voyant que le roi ne se levait pas. « Eh bien, monsieur Barnave, dit-elle, vous voilà content, le roi a suivi votre avis, il a juré la constitution. » La reine est bien bonne, répondit Barnave en s'inclinant, de dire que le roi a suivi mon avis, si cet avis n'eût point été en même temps celui de l'empereur Léopold et du prince de Kaunitz. Peut-être sa majesté eût-elle mis une hésitation plus grande à accomplir cet acte, le seul pourtant qui pût sauver le roi, si le roi pouvait... Barnave s'arrêta. Pouvait être sauvé, n'est-ce pas, monsieur? C'est cela que vous voulez dire, reprit la reine, abordant la question avec courage et, nous pouvons ajouter, avec cette audace qui lui était particulière. Dieu me garde, madame, de me faire le prophète de pareils malheurs. Et cependant, près de quitter Paris, près de m'éloigner pour toujours de la reine, je ne voudrais ni trop désespérer sa majesté, ni lui laisser trop d'illusions. Vous quittez Paris, monsieur Barnave, vous vous éloignez de moi. Les travaux de l'Assemblée dont j'étais membre sont finis, madame, et comme l'Assemblée a décidé qu'aucun constituant ne pourrait faire partie de la législative, je n'ai plus aucun motif de rester à Paris. Pas même celui de nous être utile, monsieur Barnave. Barnave sourit tristement. Pas même celui de vous être utile, madame, car en effet, à partir d'aujourd'hui, ou plutôt d'avant-hier, je ne puis plus vous être utile à rien. Oh, monsieur, dit la reine, vous présumez trop peu de vous-même. Hélas, non, madame, je me juge et je me trouve faible, je me pèse et je me trouve léger. Ce qui faisait ma force, force dont je suppliais la monarchie de se servir comme d'un levier, c'était mon influence à l'Assemblée, ma domination aux Jacobins, c'était enfin ma popularité si péniblement acquise. Mais l'Assemblée est dissoute, mais les Jacobins sont devenus les feuillants, et j'ai grand peur que les feuillants en aient joué, en se séparant des Jacobins, un bien mauvais jeu. Enfin, madame, ma popularité... Barnave sourit plus tristement encore que la première fois. Enfin, ma popularité est perdue. La reine regarda Barnave et une lueur étrange qui ressemblait à un éclair de triomphe passa dans ses yeux. « Eh bien, dit-elle, vous voyez donc, monsieur, que la popularité se perd. » Barnave poussa un soupir. La reine comprit qu'elle venait de commettre une de ces petites cruautés qui lui étaient habituelles. En effet, si Barnave avait perdu sa popularité, et un mois avait suffi pour cela, s'il avait été forcé de courber la tête sous la parole de Robespierre, à qui la faute? N'était-ce pas à cette monarchie fatale qui entraînait tout ce qu'elle touchait vers l'abîme où elle courait elle-même, à ce destin terrible qui, de Marie-Antoinette comme de Marie Stuart, faisait une espèce d'ange de la mort, vouant au tombeau tous ceux auxquels elles apparaissaient? Elle revint donc en quelque sorte sur ses pas, et sachant gré à Barnave d'avoir répondu par un simple soupir, quand il eut pu répondre par ces mots foudroyants « Pour qui ai-je perdu ma popularité, madame, sinon pour vous ?» Elle reprit « Mais non, vous ne partirez point, n'est-ce pas, monsieur Barnave ?»« Certes, dit Barnave, mais si la reine m'ordonne de rester, je resterai. » Comme reste sous le drapeau un soldat qui a son congé et que l'on garde pour la bataille. Mais si je reste, savez-vous ce qui arrivera, madame? Au lieu d'être faible, je deviendrai traître. Comment cela, monsieur? Dit la reine, légèrement blessée. Expliquez-vous, je ne vous comprends pas. La reine me permet-elle de placer bien en face la situation, non seulement où elle se trouve, mais encore où elle va se trouver? Faites, monsieur, je suis habitué à sonder les abîmes, et si j'étais facile au vertige, déjà depuis longtemps je serais précipité. La reine regarde peut-être l'Assemblée qui se retire comme son ennemi. Distinguons, monsieur Barnave, dans cette Assemblée j'ai eu des amis, mais vous ne nierez pas que la majorité de cette Assemblée n'ait été hostile à la royauté. Madame, dit Barnave, l'Assemblée n'a fait qu'un acte d'hostilité contre le roi et vous. C'est le jour où elle a décrété qu'aucun de ses membres ne pourrait faire partie de la législative. Je ne vous comprends pas bien, monsieur. Expliquez-moi cela, dit la reine, avec le sourire du doute. C'est bien simple, elle a arraché le bouclier du bras de vos amis. Et aussi un peu, me semble, l'épée de la main de mes ennemis. « Hélas, madame, vous vous trompez. Le coup vient de Robespierre. Il est terrible, comme tout ce qui vient de cet homme. D'abord, vis-à-vis de l'Assemblée nouvelle, il vous jette dans l'inconnu. Avec la Constituante, vous saviez qui combattre, quoi combattre. Avec la législative, c'est une nouvelle étude à faire. Et puis, remarquez bien ceci, madame. En proposant qu'aucun de nous ne pût être réélu, Robespierre a voulu mettre la France dans cette alternative de prendre ou la souche qui nous est supérieure ou la souche qui nous est inférieure. Au-dessus de nous, rien n'existe. L'émigration a tout désorganisé. Et en supposant même que la noblesse fût demeurée en France, ce n'est point parmi les nobles que le peuple irait chercher ses représentants. Au-dessous de nous, soit, c'est au-dessous de nous que le peuple a pris ses députés. Alors l'Assemblée entière sera démocrate, il y aura des nuances dans cette démocratie, voilà tout. On voyait sur le visage de la reine qu'elle suivait avec une attention profonde la démonstration de Barnave, et que, commençant à comprendre, elle commençait à s'effrayer. « Tenez, continua Barnave, je les ai vus, ces députés, car depuis 3 ou 4 jours déjà, ils affluent à Paris. J'ai vu particulièrement ceux qui arrivent de Bordeaux. Ce sont presque tous des hommes sans nom, mais qui ont hâte de s'en faire un, d'autant plus pressés qu'ils sont jeunes. À part Condorcet, Brissot et quelques autres, les plus vieux d'entre eux ont à peine 30 ans. C'est l'avènement de la jeunesse chassant l'âge mûr et détrônant la tradition. » Plus de cheveux blancs, une nouvelle France va siéger en cheveux noirs. Et vous croyez, monsieur, que nous avons plus à craindre de ceux qui arrivent que de ceux qui s'en vont? Oui, madame, car ceux qui arrivent, arrivent armés d'un mandat, faire la guerre aux nobles et aux prêtres. Quant au roi, on ne se prononce pas encore sur lui, on verra. S'il veut se contenter d'être pouvoir exécutif, peut-être lui pardonnera-t-on le passé. Mais comment, s'écria la reine, comment lui pardonner le passé? Mais ce serait au roi de pardonner, je présume. Eh bien, justement, vous voyez, voilà où l'on ne s'entendra jamais. Ceux qui arrivent, madame, et vous en aurez malheureusement la preuve, ne garderont pas les mêmes ménagements hypocrites de ceux qui s'en vont. Pour eux, je tiens cela d'un député de la Gironde, l'un de mes confrères nommé Vergniaud, pour eux, le roi, c'est l'ennemi. L'ennemi? Dit la reine avec étonnement. Oui, madame, répéta Barnave, l'ennemi, c'est-à-dire le centre, volontaire ou involontaire, de tous les ennemis, intérieurs et extérieurs. Hélas, oui, il faut bien l'avouer, et ils n'ont pas tout à fait tort, ces nouveaux venus, qui croient avoir découvert une vérité, et qui n'ont d'autre mérite que de dire tout haut ce que vos plus ardents adversaires n'osaient dire tout bas. « Ennemi, répéta la reine, le roi ennemi de son peuple, oh, par exemple, monsieur Barnave, voilà une chose dont non seulement vous ne me ferez jamais convenir, mais encore que vous ne me ferez jamais comprendre. » C'est cependant la vérité, madame, ennemi de nature, ennemi de tempérament. Il y a 3 jours, il a accepté la Constitution, n'est-ce pas? Oui, eh bien, en rentrant ici, le roi s'est presque trouvé mal de colère et le soir, il a écrit à l'empereur. Mais aussi, comment voulez-vous que nous supportions de pareilles humiliations? Ah, vous le voyez bien, madame, ennemi, fatalement ennemi. Ennemi volontaire, car élevé par monsieur de Vauguillon, le général du parti jésuitique, le roi a son cœur dans la main des prêtres, qui sont les ennemis de la nation. Ennemi involontaire, car il est le chef obligé de la contre-révolution. Et supposez même qu'il ne quitte point Paris. Il est à Koblenz avec l'émigration, en Vendée avec les prêtres, à Vienne et en Prusse avec ses alliés, Léopold et Frédéric. Le roi ne fait rien. J'admets qu'il ne fasse rien, madame, dit tristement Barnave. Eh bien, à défaut de sa personne, on exploite son nom. Dans la chaumière, dans la chaire, dans le château, c'est le pauvre roi, le bon roi, le saint roi, de sorte que, au règne de la Révolution, on oppose une révolte terrible, madame, la révolte de la pitié. En vérité, monsieur Barnave, est-ce bien vous qui me dites ces choses, et n'avez-vous pas été le premier à nous plaindre? Oui, madame, oui, je vous plaignais, et je vous plains encore, et bien sincèrement. Mais il y a cette différence entre moi et ceux dont je parle, c'est qu'ils vous plaignent, eux, pour vous perdre, et que je vous plains, moi, pour vous sauver. Mais enfin, monsieur, parmi ceux qui arrivent, et qui, s'il faut vous en croire, viennent nous faire une guerre d'extermination, y a-t-il quelque chose de convenu d'avance, un plan arrêté ? Non, madame, et je n'ai encore surpris que des appréciations vagues. La suppression du titre de majesté pour la séance d'ouverture, au lieu du trône, un simple fauteuil à la gauche du président. Voyez-vous là-dedans quelque chose de plus que dans Monsieur Touret, s'asseyant parce que le roi était assis ? C'est au moins un nouveau pas en avant, au lieu d'être un pas en arrière. Puis il y a encore ceci d'effrayant, madame, c'est que messieurs de Lafayette et Bailly vont être remplacés. Oh, quant à cela, dit vivement la reine, je ne les regrette pas. Eh, vous avez tort, madame, monsieur Bailly et monsieur de Lafayette sont vos amis. La reine sourit amèrement. Vos amis, madame, vos derniers amis peut-être, aussi ménagez-les, s'ils ont sauvé quelque popularité, usez-en, mais hâtez-vous. Leur popularité ne tardera point à émigrer, comme a fait la mienne. Au bout de tout cela, monsieur, vous me montrez l'abîme, vous me conduisez jusqu'à son cratère, vous m'en faites mesurer la profondeur, mais vous ne me dites pas le moyen de l'éviter. Barnave resta muet un instant, puis poussant un soupir, « Ah, madame, murmura-t-il, pourquoi donc vous a-t-on arrêté sur la route de Montmédy ?» « Bon, dit la reine, voilà Monsieur Barnave qui approuve la fuite de Varennes. »« Je ne l'approuve pas, madame, car la situation où vous vous trouvez aujourd'hui est la conséquence naturelle de cette fuite. Mais puisque cette fuite devait avoir une telle conséquence, je déplore qu'elle n'ait pas mieux réussi. » De sorte que aujourd'hui, Monsieur Barnave, membre de l'Assemblée nationale, délégué par cette assemblée avec Messieurs Pétion et la Tour Maubourg pour ramener le roi et la reine à Paris, déplore que le roi et la reine ne soient point à l'étranger. Oh, entendons-nous bien, madame. Celui qui déplore cela, ce n'est point le membre de l'Assemblée, ce n'est point le collègue de Messieurs la Tour Maubourg et Pétion. C'est le pauvre Barnave qui n'est plus rien que votre humble serviteur, prêt à donner pour vous sa vie, c'est-à-dire tout ce qu'il possède. « Merci, monsieur, dit la reine. L'accent avec lequel vous me faites cette offre me prouve que vous seriez homme à la tenir, mais j'espère n'avoir pas un pareil dévouement à exiger de vous. »« Tant pis pour moi, madame, répondit simplement Barnave. Comment tant pis ? Oui, tomber pour tomber, j'aurais voulu du moins tomber en combattant, tandis que voici ce qui va arriver, madame. Qu'au fond de mon Dauphiné, où je vais vous être inutile, je ferai des vœux bien plus encore pour la femme jeune et belle, pour la mère tendre et dévouée, que pour la reine. Les mêmes fautes qui ont fait le passé prépareront l'avenir. Vous compterez sur un secours étranger qui n'arrivera pas ou qui arrivera trop tard. Les Jacobins s'empareront du pouvoir dans l'Assemblée et hors de l'Assemblée. Vos amis quitteront la France pour fuir la persécution. Ceux qui resteront seront arrêtés, emprisonnés. Je serai de ceux-là, car je ne veux pas fuir. Alors je serai jugé, condamné. Peut-être ma mort obscure vous sera inutile, inconnue même, ou si le bruit de cette mort arrive jusqu'à vous, je vous aurai été d'un si pauvre secours que vous aurez oublié les quelques heures pendant lesquelles j'ai pu espérer pouvoir vous être utile. « Monsieur Barnave, dit la reine avec une grande dignité, j'ignore complètement quel est le sort que l'avenir nous réserve au roi et à moi, mais ce que je sais, c'est que les noms des gens qui nous ont rendu service sont scrupuleusement inscrits dans notre mémoire, et que rien de ce qui arrivera d'heureux ou de malheureux à ceux-là ne nous sera étranger. » En attendant, monsieur Barnave, pouvons-nous quelque chose pour vous ? Beaucoup. Vous, personnellement, madame, vous pouvez me prouver que je n'étais pas tout à fait un être sans valeur à vos yeux. Et que faut-il faire pour cela ? Barnave mit un genou en terre. Me donnez votre main à baiser, madame. Une larme vint jusqu'aux paupières sèches de Marie-Antoinette. Elle étendit vers le jeune homme cette main blanche et froide, que devait, à un an de distance, toucher les lèvres les plus éloquentes de l'assemblée, celles de Mirabeau et de Barnave. Barnave l'effleura seulement. On voyait que le pauvre insensé craignait, s'il appuyait ses lèvres sur cette belle main de marbre, de ne plus pouvoir s'en détacher. Et puis, en se relevant, « Madame, reprit-il, je n'aurai pas, moi, l'orgueil de vous dire, la monarchie est sauvée, mais je vous dis, si la monarchie est perdue, celui qui n'oubliera jamais la faveur qu'une reine vient de lui accorder, celui-là est perdu avec elle. » Et, saluant la reine, il sortit. Marie-Antoinette le regarda s'éloigner en soupirant, et quand la porte se fut refermée sur Barnave, « Pauvre citron vide, dit-elle, il ne leur a pas fallu beaucoup de temps pour ne laisser de toi que l'écorce. »